La chose du monde la plus ridicule, sans doute, ma chère Thérèse, me dit Clément, est de vouloir disputer sur les goûts de l'homme, les contrarier, les blâmer ou les punir, s'ils ne sont pas conformes soit aux lois du pays qu'on habite, soit aux conventions sociales. Et quoi ? Les hommes ne comprendront jamais qu'il n'est aucune sorte de goût, quelque bizarre, quelque criminel même qu'on puisse les supporter, qui ne dépendent de la sorte d'organisation que nous avons reçue de la nature. Cela posé, je le demande. De quel droit un homme osera-t-il exiger d'un autre ou de réformer ses goûts ou de les modeler sur l'ordre social ? De quel droit, même les lois qui ne sont faites que pour le bonheur de l'homme, oseront-elles sévir contre celui qui ne peut se corriger ou qui n'y parviendrait qu'aux dépens de ce bonheur que doivent lui conserver les lois ? Mais désira-t-on même de changer de goût ? Le peut-on ? Est-il en nous de nous refaire ? Pouvons-nous devenir autres que nous sommes ? L'exigeriez-vous d'un homme contrefait ? Et cette inconformité de nos goûts est-elle autre chose au moral que ne l'est au physique l'imperfection de l'homme contrefait ? Entrons dans quelques détails, j'y consens. L'esprit que je te connais, Thérèse, te met à apporter de les entendre. Deux irrégularités, je le vois, t'ont déjà frappé parmi nous. Tu t'étonnes de la sensation piquante éprouvée par quelques-uns de nos confrères pour des choses vulgairement reconnues pour fétides ou impures. Et tu te surprends de même que nos facultés voluptueuses puissent être ébranlées par des actions qui, selon toi, ne portent que l'emblème de la férocité. Analysons l'un et l'autre de ces goûts et tâchons s'il se peut de te convaincre qu'il n'est rien au monde de plus simple que les plaisirs qui en résultent. Il est, prétends-tu, singulier que des choses sales et crapuleuses puissent produire dans nos sens l'irritation essentielle au complément de leur délire. Mais avant que de s'étonner de cela, il faudrait sentir, chère Thérèse, que les objets n'ont de prix à nos yeux que celui qui met notre imagination. Il est donc très possible, d'après cette vérité constante, que non seulement les choses les plus bizarres, mais même les plus viles et les plus affreuses puissent nous affecter très sensiblement. L'imagination de l'homme est une faculté de son esprit où vont, par l'organe des sens, se peindre, se modifier les objets et se former ensuite ses pensées en raison du premier aperçu de ces objets. Mais cette imagination résultative, elle-même de l'espèce d'organisation dont est doué l'homme, n'adopte les objets reçus que de telle ou telle manière et ne crée ensuite les pensées que d'après les effets produits par le choc des objets aperçus. Qu'une comparaison facilite à tes yeux ce que j'expose. N'as-tu pas vu, Thérèse, des miroirs de formes différentes ? Quelques-uns qui diminuent les objets, d'autres qui les grossissent, ceux-ci qui les rendent affreux, ceux-là qui leur prêtent des charmes. T'imagines-tu maintenant que si chacune de ces glaces unissait la faculté créatrice à la faculté objective, elle ne donnerait pas, du même homme qui se serait regardé dans elle, un portrait tout à fait différent ? Et ce portrait ne serait-il pas en raison de la manière dont elle aurait perçu l'objet ? Si aux deux facultés que nous venons de prêter à cette glace, elle joignait maintenant celle de la sensibilité, n'aurait-elle pas pour cet homme, vu par elle de telle ou telle manière, l'espèce de sentiment qui lui serait possible de concevoir pour la sorte d'être qu'elle aurait aperçu ? La glace qu'il aurait vue beau l'aimerait, celle qu'il aurait vue affreux le haïrait. Et ce serait pourtant toujours le même individu. Telle est l'imagination de l'homme, Thérèse. Le même objet s'y représente sous autant de formes qu'elle a de différents modes et d'après l'effet reçu de cette imagination par l'objet, quel qu'il soit, elle se détermine à l'aimer ou à le haïr. Si le choc de l'objet aperçu la frappe d'une manière agréable, elle l'aime, elle le préfère, bien que cet objet n'ait en lui aucun agrément réel. Et si cet objet, quoique d'un prix certain aux yeux d'un autre, n'a frappé l'imagination dont il s'agit que d'une manière désagréable, elle s'en éloignera. Parce qu'aucun de nos sentiments ne se forme, ne se réalise qu'en raison du produit des différents objets sur l'imagination. Rien d'étonnant d'après cela que ce qui plaît vivement aux uns puisse déplaire aux autres. Et réversiblement, que la chose la plus extraordinaire trouve pourtant des spectateurs, l'homme contrefait, trouve aussi des miroirs qui le rendent beau. Or, si nous avouons que la jouissance des sens soit toujours dépendante de l'imagination, toujours réglée par l'imagination, il ne faudra plus s'étonner des variations nombreuses que l'imagination suggérera dans ses jouissances, de la multitude infinie de goûts et de passions différentes qu'enfanteront les différents écarts de cette imagination. Ces goûts, quoique luxurieux, ne devront pas frapper davantage que ceux d'un genre simple. Il n'y a aucune raison pour trouver une fantaisie de table moins extraordinaire qu'une fantaisie de lit. Et dans l'un ou l'autre genre, il n'est pas plus étonnant d'idolâtrer une chose que le commun des hommes trouve détestable, qu'il ne l'est d'en aimer une généralement reconnue pour bonne. L'unanimité prouve de ta conformité dans les organes, mais rien en faveur de la chose aimée. Les trois quarts de l'univers peuvent trouver délicieuse l'odeur d'une rose, sans que cela puisse servir de preuve, ni pour condamner le quart qui pourrait la trouver mauvaise, ni pour démontrer que cette odeur soit véritablement agréable. Si donc il existe des êtres dans le monde dont les goûts choquent tous les préjugés admis, non seulement il ne faut point s'étonner d'eux, non seulement il ne faut ni les sermonner, ni les punir, mais il faut les servir, les contenter, anéantir tous les freins qui les gênent et leur donner, si vous voulez être juste, tous les moyens de se satisfaire sans risque. Parce qu'il n'a pas plus dépendu d'eux d'avoir ce goût bizarre qu'il n'a dépendu de vous d'être spirituel ou bête, d'être bien fait ou d'être bossu. C'est dans le sein de la mère que se fabriquent les organes qui doivent nous rendre susceptibles de telle ou telle fantaisie. Les premiers objets présentés, les premiers discours entendus achèvent de déterminer le ressort. Les goûts se forment et rien au monde ne peut plus les détruire. L'éducation a beau faire, elle ne change plus rien. Et celui qui doit être un scélérat le devient tout aussi sûrement, quelque bonne que soit l'éducation qui lui a été donnée. Que vole sûrement à la vertu celui dont les organes se trouvent disposés au bien, quoique l'instituteur l'ait manqué.
Un SAD assez inquiétant et en même temps très intéressant qui nous montre, on finira sur une note un peu plus légère après, je vous rassure, sinon on va tous avoir envie de se suicider, qui nous montre en fait qu'il n'y a pas de morale, hein, ça vous l'avez bien compris. Il n'y a pas du coup des gens qui ont des pratiques blâmables et d'autres pas. Pour SAD, et c'est difficilement acceptable pour nous, tout se vaut. Il l'a dit, les fantaisies de lit valent autant les fantaisies de bouche. Pourquoi n'aimez-vous pas le canard? Je sais pas. C'est la même chose avec toutes les pratiques sexuelles. Certains ont besoin d'associer la souffrance, la leur, le plus souvent d'ailleurs dans les romans de Sade, ou la souffrance d'autrui au plaisir sexuel. Ils n'en sont pas pour autant blâmables. Pour Sade, et c'est assez troublant de l'entendre, tout se forme dans le ventre de la mère. L'enfant reçoit ses premières perceptions et à partir de là construit son désir, construit ce que Sade appelle son imagination. Il y a donc chez lui un acquis très fort, un héritage à la naissance qui mêle à la fois l'imagination telle qu'elle a pu se former au premier regard, au premier contact, au premier mot entendu, et puis il y a aussi un corps, une nature chez Sade, ce qu'il appelle un tempérament. Certains ont un fort appétit, d'autres pas. Certains ont besoin de manger 300 kilos de viande, d'autres 2 grammes. Pourquoi ? C'est une physiologie. Pour Sade, on en hérite, on n'en est pas responsable. Et quelqu'un qui a besoin de manger beaucoup n'est pas un monstre. Il a juste un corps qu'il n'a pas choisi, de la même manière que celui qui est contrefait, comme il le dit, n'a bien sûr pas non plus choisi d'être laid. Tout se résume donc, a priori, à un héritage physiologique et fantasmatique, l'imagination qui joue un rôle très important, qui détermine ensuite notre vie sexuelle. Il n'y a pas, et notre vie sociale d'ailleurs aussi, le besoin ou pas de violence. Il n'y a pas du coup de morale. Mais on pourrait dire aussi, enfin d'ailleurs il le dit, la prison ne sert à rien par exemple. Puisque si vous avez hérité de cette physiologie et de ce caractère, comme Sade le dit, on peut bien vous enfermer 27 ans, vous ne changerez jamais. D'ailleurs, il ne cesse de répéter dans toutes ses correspondances, « Je ne changerai pas. On ne change pas un homme. Au contraire, dit-il, vous m'endurcissez et vous me dégradez encore avec la prison. » Donc on ne peut pas corriger l'acquis l'inné plutôt, d'un être humain. Alors, ça pourrait donc être assez désespérant, le monde sadien. Tout serait du coup immobile. En réalité, ce qui est une petite lueur d'espoir, quelqu'un tout à l'heure, quand on discutait, disait, il n'y a pas d'espoir chez Sade. Eh bien, si, quand même, toujours, un petit peu. Petite lucarne, au fond, ce sont les femmes. Les femmes, elles échappent apparemment un tout petit peu plus au déterminisme du caractère de la physiologie. Et on voit des personnages féminins changer dans les romans de Sade, c'est-à-dire être, par exemple, timorées, craintives, soumises à leurs parents, et puis, un peu plus tard, formées par la vie, acquérir du courage, de l'audace, et finalement, voir certaines idées qu'elles avaient, ou certains préjugés, disparaître. Il y a donc quand même des mutations possibles de l'identité, mais elles restent isolées, elles existent, elles sont un horizon pour Sade, mais elles ne sont pas du tout sa réalité. Hein, lui, il passe son temps entier pour lui à dire qu'on ne changera pas ce qu'il est. Et que du coup, il est le résultat d'une nature et d'un imaginaire forgé dans les premières années de sa vie. C'est intéressant pour nous, hein, de savoir que Sade était fait à la naissance. Bref.